Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous en ce mercredi 9, voyons, non, qu'est-ce que je dis, jeudi 9 mars 2017, je suis très très heureuse de vous retrouver, c'est Clotilde Saye au micro. Et vos titres aujourd'hui, des manifestantes dénoncent les violences faites aux femmes et plus spécialement aux femmes handicapées, c'était hier bien évidemment. Le décès de Luc Cousineau, une entrevue avec Nathalie Boels, à moins que ce soit Boels, présidente du conseil d'administration de l'association Spina Bifida Hydrocéphalie Québec. Aussi à l'émission, une possible grève au réseau de transport de la capitale, mais les chauffeurs se montrent rassurants envers la population vivant avec un handicap. Consultation pour trouver une nouvelle vocation à l'Hôtel Dieu de Québec. Une autre entrevue, cette fois-ci avec Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2. Et puis également, parmi les titres, un traitement controversé contre la sclérose en plaques s'avère inefficace. Et en France, une vidéo qui veut rafraîchir la mémoire des candidats à la présidentielle. Au sujet de quoi? De la maladie d'Alzheimer. Alors, des manifestantes hier ont dénoncé les violences faites aux femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Des membres de la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes se sont réunis à Québec autour du thème « L'égalité sans limite ». Une action de visibilité s'est déroulée mercredi midi dans les rues du quartier Saint-Roch, écrit pour nous Claudine Pelletier-Paquin. Encore aujourd'hui, la violence sexuelle, conjugale et économique a un visage qui est majoritairement celui des femmes, a soutenu Mélissa Crib de la coalition régionale de la marche des femmes. Des manifestantes ont souligné que les femmes autochtones, handicapées et immigrantes étaient parmi les plus vulnérables. Les membres de la coalition ont également tenu à rappeler que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est toujours pas atteinte. C'est le cas sur le marché du travail où les femmes gagnent toujours 76% du salaire des hommes. Selon la coalition, la hausse du salaire minimum à 15 $ est réclamée par l'ensemble des manifestantes. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps. Du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Et oui, l'auteur, compositeur, interprète Luc Cousineau, dont la pièce « Vivre en amour », qui est sortie en 1976 et est devenue un classique de la chanson québécoise, a succombé lundi à la sclérose latérale amyotrophique, dite la SLA, dite aussi la maladie de Lou Gehrig. Il avait 72 ans. Le musicien aura connu une carrière de 50 ans au cours de laquelle il a enregistré une vingtaine d'albums, dont le plus récent, « Salut la vie », est sorti en décembre dernier. Né à Montréal le 19 septembre 1944, Luc Cousineau était le troisième d'une famille de 5 enfants. Ses frères, Jean, également décédé, et François ont également fait carrière dans le monde musical. En 2014, sentant le besoin de se renouveler, il entame un nouveau travail de création avec le guitariste Samuel Busque de Noir Silence. Au terme d'une première collaboration, sort l'album et un nouveau nom d'artiste, Le Gars Là. Je me souviens très bien de cette période, dit Samuel Busque, qui a ensuite travaillé de près avec M. Cousineau jusqu'à la fin. Au moment de la sortie de l'album, Luc a senti une douleur dans un de ses doigts. Il était sceptique à l'idée que ce soit simplement musculaire. Une fois les résultats des tests connus, M. Cousineau a révélé être le gars là et a continué, malgré la maladie, à enchaîner les projets. « Je n'ai jamais vu un gars avec une telle rigueur », dit M. Busque. « De l'épaisseur du papier pour la pochette jusqu'au texte, au choix des instruments, aux mots à mettre sur sa page Facebook, on passait des heures à tout voir, à tout corriger. » Et même dans la maladie, la rigueur et le désir de bien faire les choses ont prévalu. Lorsqu'il a sorti la compilation de ses chansons en 2015, il a mis un an à taper chaque mot d'un livret de 92 pages avec ses pieds. « Dans ce qui m'arrive, il y a tellement de petites victoires », disait Luc Cousineau. « C'est deuil après victoire, après deuil après victoire. Si je ne fonctionnais pas à l'instant présent, je ne pourrais pas profiter des petits bonheurs comme boire un café au lait, par exemple. C'est comme ça que je réussis à conserver ma sérénité. » « Elle s'appelle Nathalie Boels, elle est présidente du conseil d'administration de l'association Spina Bifida Hydrocéphalique de Québec. Non, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de préposition là, Québec. Et je pense qu'elle doit être au bout du fil. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Alors, je suis très, très contente de vous parler aujourd'hui parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur cet organisme et notamment sur sa mission.
Notre organisme existe depuis 40 ans.
Oui.
Il est vraiment dévoué au bien-être des personnes qui vivent avec le spina bifida et l'hydrocéphalie. Notre but, vraiment, c'est de faire en sorte qu'ils vivent la vie qu'ils souhaitent, la vie la plus enrichissante possible, malgré les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie.
Madame Boels, pardon, vous êtes vous-même atteinte, hein, je pense.
Oui, j'ai l'hydrocéphalie, une hydrocéphalie congénitale.
Congénitale.
Oui.
Peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout cette maladie, de quoi s'agit-il exactement?
L'hydrocéphalie, c'est un excès de liquide. On a tous un liquide dans la tête qui nourrit le cerveau, finalement, et le protège en même temps. Chez les personnes qui sont hydrocéphales, le liquide reste là, au lieu de circuler après librement dans le corps et de s'évacuer, ce qui peut causer des dommages au cerveau irréparables.
Sûr.
Si les personnes ne sont pas opérées pour avoir une dérivation. Et il y a 8 personnes sur 10 qui ont le spina bifida, qui ont aussi l'hydrocéphalie.
Alors, et le spina bifida, qu'est-ce que c'est?
Le spina bifida, c'est une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Donc, ça se développe dans les 3 premières semaines de grossesse, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et puis, les séquelles sont variables. C'est des séquelles physiques essentiellement, des difficultés à la marche, des problèmes avec le système urinaire. C'est essentiellement ça. Mais c'est vraiment variable d'une personne à une autre. Il y a 3 formes de spina bifida, de la plus légère à la plus grave. Et les personnes peuvent marcher normalement, marcher en boitillant ou avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.
D'accord. Est-ce qu'on sait combien de personnes au Québec et même au Canada sont atteintes à peu près par cette maladie?
On les évalue au gros minimum à 9000 personnes, mais ça inclut seulement les cas qu'on découvre à la naissance.
D'accord.
Ça inclut pas les cas d'hydrocéphalie après un traumatisme crânien, une méningite, etc. Et ça inclut pas non plus les personnes qui ont la forme la plus légère du spina bifida, qu'on appelle occulta, qui se voit pas à la naissance.
D'accord.
Et que les gens réalisent souvent à 30 ou 40 ans.
Alors, si je vous pose toutes ces questions-là, c'est parce que souvent, justement, on connaît mal cette maladie-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a un colloque qui va s'organiser. J'imagine que ce n'est pas le premier du nom. On parle du 17 et du 18 mars prochain, c'est bien
mars.
Ça?
Oui, oui.
Alors,
ça va avoir lieu à Montréal.
Oui.
Au 67 rue Côte-des-Neiges.
D'accord.
C'est sur 2 journées. La première journée, c'est le vendredi. On la consacre plus particulièrement aux professionnels de la santé.
D'accord.
Et la deuxième journée, c'est plus particulièrement à toutes les personnes qui vivent avec le spina bifida ou l'hydrocéphalie et leur entourage.
Et leur entourage, et ça, c'est ça.
Oui. Mais ça, c'est pas non plus une barrière étanche, là. S'il y a des professionnels de la santé qui veulent venir avec nous le samedi, on est ouvert à leur présence. Et inversement, nos membres sont bienvenus le vendredi. D'ailleurs, le vendredi, il y a plusieurs conférences.
Oui.
Il y en a qui sont plus pointues. Par exemple sur la génétique, sur les risques du spina bifida chez les femmes asthmatiques, sur le cathétérisme aussi, les problèmes urinaires, qui peut-être vont plus intéresser les professionnels de la santé. À côté de ça, on a des conférences plus grand public. Je pense par exemple à la conférence d'Isabelle Ducharme, qui va nous expliquer comment on arrive malgré les obstacles qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours quand on a des limitations fonctionnelles, comment on peut avoir une vie riche et entière et épanouie et s'impliquer et faire tout ce qui nous plaît dans la vie.
comme on dit toujours, souvent, le handicap, c'est pas la maladie dont on est atteint, mais c'est le fait qu'il n'y a rien autour qui est fait pour nous rendre la vie facilement, quoi.
Non, c'est ça,
pour
exactement.
Nous rendre la vie facile, ouais, c'est
oui,
c'est ça.
Oui, c'est pour ça qu'on parle de personnes en situation de handicap,
oui.
Parce que dans le fond, c'est le fait que l'environnement n'est pas adapté
non.
à leur situation.
Oui, exactement.
Mais quand on apprend à surmonter ou contourner les obstacles autour de nous, on peut arriver à faire des grandes choses. D'ailleurs, il y a une personne qui va venir parler aussi de sport adapté.
Oui.
Une personne qui est impliquée dans le défi Altergo.
Mm-hmm.
Qui va venir nous parler de sport adapté.
Intéressant. Et puis quoi d'autre aussi? Pardon, elle s'appelle comment?
C'est Monsieur Maxime Gagnon.
Ah, c'est Monsieur Maxime Gagnon,
oui,
d'accord, qui
va
venir.
Nous parler de sport adapté.
D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets aussi, j'imagine, qui concernent l'entourage, hein? On parle souvent des proches aidants qui sont parfois un petit peu démunis pour certaines maladies. J'imagine que c'est vrai aussi pour celle-ci.
Oui. Ben, pour l'entourage, je dirais que d'abord, les conférences peuvent les intéresser parce qu'ils vont apprendre toutes sortes d'informations. Ils vont rencontrer aussi les personnes qui vont être là, qui vont assister aux conférences, pouvoir échanger avec eux. Puis le samedi, c'est vraiment les tables rondes, on en a quatre.
Ah oui.
C'est vraiment pour échanger sur ce qu'on vit au quotidien et essayer de trouver des solutions pour surmonter les obstacles au quotidien.
Alors, on va rappeler où ça se passe, Madame Boels, Nathalie Boels.
Oui.
Donc, ce colloque.
Donc, c'est à Montréal.
Comment il s'appelle, au fait, le colloque? Est-ce que c'est le colloque Spina Bifida?
40 ans, ce n'est pas rien, parce qu'en fait, on fête nos 40 ans.
D'accord.
Donc, on en profite pour souligner ça.
Alors, 40 ans, ce n'est pas rien, parce que je vais demander à notre camarade Christian Campagna, qui est notre chargé de communication, de mettre ça sur notre site aussi pour que les gens puissent s'y retrouver. Alors, c'est au 67-67 Côte-des-Neiges.
Oui,
c'est une maison individuelle ou c'est un organisme? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est en fait une... J'allais dire une bâtisse, un gros bloc adapté où il y a des organismes communautaires à l'intérieur.
Ah, d'accord.
Et
l'essentiel
du colloque va se trouver au premier étage.
Parfait.
C'est un bâtiment adapté, évidemment.
Parfait.
Donc, il n'y a vraiment pas de problème question
accessibilité. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Boels. Je rappelle que vous êtes présidente du conseil d'administration de l'association Spina Bifida Hydrocéphalie Québec. Et vous nous parliez de ce colloque qui aura lieu les 17 et 18 mars prochains. Information sur le site de canalm.org, mais aussi sur votre site, j'imagine, à vous.
Oui, sur le site de l'association, c'est... spina.qc.ca, donc spina, spina.qc.ca /événement.
D'accord.
Puis le numéro de téléphone de l'association, que si vous pouviez le mettre sur le site, ça serait bien aussi.
D'accord, je vais essayer en tout cas.
OK. 514-340-9019.
9019.
Oui,
alors c'est parfait, je donne tout ça à notre camarade et je vous souhaite une belle fin de journée, Nathalie.
Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous parler, je vous remercie de nous avoir permis de parler de l'événement.
Ça nous a fait plaisir. Allez, bonne
Merci.
Fin de journée, au revoir.
Merci, au revoir.
Par actualité régionale, possible grève au RTC, donc le réseau des transports de la capitale. L'entente sur les services essentiels a été approuvée. Le tribunal administratif du travail a approuvé mercredi l'entente conclue entre le RTC et ses chauffeurs d'autobus sur le service essentiel à offrir en cas de grève. L'entente prévoit que tous les parcours réguliers, donc le bus, métrobus et express, à l'exception de la série 100, seront maintenus lors des heures de pointe en semaine, soit de 6h15 à 9h15 et de 15h à 18h. Idem pour les parcours scolaires, le matin, à l'heure du dîner et le soir. Le RTC précise que les heures de fin de service, 9h15 et 18h, correspondent aux dernières descentes en bout de parcours. Plusieurs parcours achalandés seront également maintenus aux heures de pointe durant les week-ends. C'est notamment le cas des parcours portant les numéros 1, 3, 11 et 25, ainsi que tous les métrobus à l'exception du 803. Quoi d'autre aussi sur ce sujet? Je voulais vous en parler ce matin parce que les chauffeurs s'engagent à donner des indications nécessaires aux personnes ayant un handicap visuel et qui monteraient à bord de ces autobus. Je vous dis cela parce que l'entente intervenue prévoit que les chauffeurs n'utiliseront pas la console nomade qui permet aux usagers de suivre les parcours d'autobus en temps réel. Les 950 chauffeurs du RTC menacent de déclencher une grève générale illimitée lundi prochain si aucune entente n'intervient avec leur employeur. Les chauffeurs sont sans contrat, rappelons-le, depuis le 30 juin dernier. Également à Québec, l'Hôtel-Dieu, la Congrégation des Augustines, est invitée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à participer à la réflexion sur la vocation future de l'Hôtel-Dieu de Québec. Cette réflexion s'est amorcée mercredi matin dans la foulée de la construction du méga-hôpital sur le site de l'hôpital L'Enfant-Jésus. Ce nouveau centre de soins, construit à Limoilou au cours des 4 prochaines années, devrait intégrer toutes les fonctions hospitalières de l'actuel Hôtel-Dieu de Québec situé dans le Vieux-Québec. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dit vouloir consulter notamment la Ville de Québec et la direction du CHU du Québec, mais avant tout les Augustines, pour déterminer ce qu'il adviendra de l'Hôtel-Dieu. Et cette congrégation des Augustines entend bien proposer plusieurs pistes au gouvernement pour l'avenir de cet établissement. À l'image du nouveau monastère voisin, les sœurs souhaitent être à l'avant-garde. L'important pour nous, c'est de répondre à des besoins actuels et nouveaux. On va essayer d'être créative là-dedans, a dit Lise Tanguay, la supérieure générale de la congrégation. Sœur Tanguay a déjà proposé l'idée d'un CHSLD destiné aux personnes de moins de 40 ans, une clientèle souvent négligée, selon elle. Pourquoi on ne créerait pas on ne pourrait pas créer un espace de vie pour les handicapés qui sont assez jeunes, a expliqué la sœur en vantant les qualités du secteur du Vieux-Québec comme milieu de vie. Le service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2 travaille toujours très fort et Manon Boisvert, qui en est sa directrice générale, va pouvoir nous le confirmer. Bonjour, Madame Boisvert.
Bonjour, Madame Fay.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Bon, alors, vous nous rappelez d'abord très rapidement ce qu'est votre organisme pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, s'il vous plaît, Manon.
Oui, notre organisme a comme mission d'aider les personnes qui ont des limitations là, d'ordre intellectuel, psychologique ou physique dans leur démarche de recherche d'emploi. Mm-hmm. Puis on aide aussi les employeurs là, à trouver du personnel compétent, stable et motivé. Là, on les aide à économiser du temps et argent dans leur embauche d'employés.
Vous êtes dans une région... Pardon, spécifique ou vous êtes partout au Québec?
Comment oui, ça se... ici, on couvre notre service couvre toute la région de Lanaudière.
Mm-hmm.
Donc, on a des points de service un peu partout dans la région. Là.
D'accord. Alors, cette année, c'est un anniversaire?
Oui, c'est notre 35e anniversaire cette année. Là.
D'accord. Mais donc, autrement dit, quand c'est né, vous n'étiez pas né?
Moi, j'étais née, mais j'étais pas encore en emploi.
Ah, vous avez une voix tellement jeune, voyez-vous, que j'aurais parié sur le fait que vous n'étiez pas encore née.
Ah oui, merci.
Non, je vous en prie.
Oui, au départ, en 1982, notre bureau était situé au centre hospitalier de Joliette.
Oui.
Et donc, on desservait surtout la clientèle santé mentale.
Mm-hmm. OK.
Au fil des années, on s'est étendu justement sur notre territoire régional.
Oui.
Et on dessert aussi la clientèle là, ayant des limitations de tout ordre.
D'accord. Et si vous deviez dresser un bilan, Manon Boisvert, de ces 35 années assez rapidement, qu'est-ce que vous dresseriez comme bilan?
Bien, je vous dirais qu'on est très fiers de ce qu'on a fait. Notre service n'a pas arrêté d'évoluer, de se développer. Mm-hmm. Plus ça va, plus on aide de personnes à intégrer le marché du travail,
oui.
Ce qui est très positif. Si on regarde depuis les cinq dernières années, on a placé environ 1000 personnes en emploi. On les a aidées plutôt à intégrer le marché de l'emploi. Donc, pour nous, c'est très positif.
Mais oui, bravo.
On évolue toujours et on développe des outils là, actuels pour aider la clientèle et les employeurs.
Quel genre d'outils? Est-ce que vous passez par les réseaux sociaux?
On utilise les réseaux sociaux, mais on a surtout développé, par exemple, des outils pour des personnes, par exemple, autistes. Donc,
oui.
Ça permet à l'employeur qui embauche une personne autiste de bien comprendre ce qu'est l'autisme et du comportement que la personne peut avoir et
Oui.
justement faire tomber les préjugés, là.
Voilà. Et
Donc,
puis, ce qu'il faut faire ou pas faire en cas éventuel, entre guillemets, de crise ou autre, s'il se passait quelque chose dans le contexte, dans le milieu de travail, quoi.
oui, pour aider aussi les collègues de travail,
Oui.
là, à accompagner la personne
Oui, parce
dans
que
la vie de tous les jours, là, au
c'est pas
niveau de
évident,
l'emploi.
hein. Je veux dire, on a beau parfois vouloir faire, bien faire, puis on fait mal.
Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que nos services sont là.
Mais
C'est
oui.
pour aider les employeurs et autant les employés, là, à faire en sorte que les personnes qui ont des limitations puissent bien fonctionner.
Oui, parce que souvent, autant de handicaps, autant de précautions à prendre aussi. Ce ne sont pas forcément les mêmes.
Oui, il y a des précautions
Hein?
à prendre, mais l'objectif, c'est toujours de faire valoir les forces, hein. On a un handicap, mais on a surtout des forces.
Oui.
Donc, c'est que la personne puisse mettre son potentiel, là,
Exactement.
à contribution de l'employeur et des clients, des employeurs, souvent aussi.
Alors, Manon Boisvert, un sujet encore hein, qui continue de fâcher, de nous inquiéter. Hier, on soulignait hein, la Journée internationale des femmes. Moi, j'aime mieux souligner la Journée internationale pour le droit des femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la situation des femmes handicapées dans le contexte de l'emploi? Est-ce que c'est plus dur pour une femme handicapée que pour un homme handicapé?
Bien, plus dur, pas nécessairement,
Non, mais je veux
parce
dire, plus dur d'être engagée.
d'être engagé, ben pour
Non.
compétences égales, non.
OK.
Ce qui est plus difficile actuellement qu'on voit, c'est que notre gouvernement priorise plutôt dans les services d'employabilité la clientèle étant sur l'aide sociale ou sur l'assurance emploi. Ça peut faire en sorte qu'une femme, par exemple, qui a un conjoint qui travaille et qui a un salaire au-dessus du seuil de la pauvreté, va avoir plus de difficultés, on va avoir plus de difficultés à aller chercher une aide financière pour elle.
OK.
Donc, à ce niveau-là, il y a encore du travail à faire là, pour améliorer la situation des femmes. Nous, notre équipe est majoritairement des femmes et on trouve ça difficile parfois de ne pas pouvoir aider une personne à intégrer le marché de l'emploi à cause de ça, là, le manque de ressources financières.
Ah oui.
Mais par contre, si on regarde personne sur l'aide sociale, qu'elle soit homme ou femme, on va
Oui.
avoir autant de facilité là, à la
Bon,
placer, à aller
d'accord.
chercher des. Mais il y a toujours du travail à faire. Puis
Oui.
c'est ça, si on regarde aussi au niveau des femmes en emploi, elles sont beaucoup au niveau de la restauration, des centres
Oui.
de la petite enfance.
Oui.
Mais c'est un peu comme dans la société en
Bon.
majorité, dans le fond.
Et dans la société, mais là, je remarquais, je vous pose cette question-là, devrais-je? Oh, allez, je me lance. Mais sentez-vous bien à votre aise, Madame Boisvert. Dans la société, on remarque aussi que la plupart des femmes ne gagnent que 76% du salaire des hommes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans le milieu du handicap? Vous qui avez placé 1 000 personnes, est-ce qu'il arrive de constater qu'à travail égal, un homme sera mieux payé qu'une femme?
Malheureusement, oui. Nous, ce qu'on
Oh.
essaie, ben c'est partout comme
Ouais.
partout dans la
Bon.
société. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est justement faire en sorte que nos clients, qu'ils soient hommes ou femmes,
Ouais.
quand ils entrent dans une entreprise,
Mais
qu'ils
oui.
aient les mêmes conditions que les autres.
Bien
On travaille
sûr.
fort là-dessus.
C'est pas de
Mais
votre
par
faute,
contre,
hein?
non, c'est pas de notre faute, mais par contre, c'est oui, c'est comme dans la société
Ben
en
oui. Bon,
général.
ben écoutez, je suis absolument navrée d'entendre cela, mais moi, pour moi, la journée des femmes, il faut que ce soit un petit peu tous les jours. Hein? Voilà.
Oui, c'est ça. Puis on sait combien le travail peut nous aider là justement à avoir une bonne estime de
Oui,
soi,
oui.
à faire notre part
Ben
sociale.
oui.
Les femmes vont avoir plus un sentiment de bien-être si elles vivent des relations avec des collègues de
Ben oui, bien
travail.
sûr.
Donc on travaille fort là-dessus là pour aider les femmes.
Eh bien, bravo.
Ben,
Bravo,
merci.
Madame Boisvert, directrice générale de Services spécialisés de main-d'œuvre Essor 2. On aura l'occasion de se reparler sur les ondes, mais en attendant, ben, je vous souhaite une belle journée.
Je vous remercie, je vous
Mais
en
je vous
prie.
en prie, au revoir, Madame
Au
Boisvert.
revoir.
Par actualité nationale, un traitement controversé contre la sclérose en plaques s'avère inefficace. Le traitement développé par le chirurgien italien Paolo Zamboni pour traiter la sclérose en plaques n'est pas efficace selon une étude à large échelle menée par une équipe de chercheurs canadiens dont les résultats lors du congrès annuel de la Society for Interventional Radiologies qui a lieu cette semaine à Washington, D.C. Depuis 2009, des milliers de patients souffrant de la sclérose en plaques ont eu recours à la méthode Zamboni, aussi appelée la thérapie de la libération. Elle consiste à dilater les vaisseaux sanguins du cou pour atténuer les symptômes de la personne malade et promet des améliorations significatives de son état en une seule intervention médicale. Eh bien, une recherche pan-canadienne menée notamment par l'Université de Colombie-Britannique a démontré le contraire. Le neurologue Marc Girard du CHUM a d'ailleurs contribué aux travaux de l'équipe de chercheurs qui ont clairement démontré l'inefficacité de la thérapie de libération du docteur Zamboni. Nous espérons que ces conclusions convaincront les personnes atteintes de sclérose en plaques de ne pas recourir à la thérapie de libération, qui est une procédure invasive comportant des risques de complications en plus d'être dispendieuse. À l'international, ils bégaient, ils hésitent, ils cherchent leurs mots. De qui je parle ? D'hommes politiques. Ah bon ? Qui bégaient, qui hésitent, qui cherchent leurs mots ? Il s'agit bien évidemment d'un montage vidéo qui est en ce moment présenté en France et où on reprend des discours des candidats à la présidentielle française. Et c'est une vidéo de l'association France Alzheimer qui vient rappeler aux candidats de la présidentielle que la maladie d'Alzheimer ne doit pas être un parent pauvre de cette campagne. Alors on voit tous les gens en ce moment qui sont sur les rangs, les Macron et autres, Hamon, en tout cas tous ceux qui veulent devenir président de la République à la place de Hollande, bégayant et souffrant beaucoup pour s'exprimer, comme s'ils étaient eux-mêmes atteints de la maladie d'Alzheimer. L'association a même lancé un site dédié à l'opération qui s'appelle, donc avec le triple W bien sûr, toutscandidatsalamaladie.fr. Et elle compte bien faire de la maladie et de sa prise en soin l'un des sujets du débat électoral. La FADOC d'Otterburn Park, en bref, vous annonce qu'il va y avoir des ateliers d'informatique. C'est un nouveau groupe pour ateliers iPad qui va commencer le 11 avril de 9h à midi. Ça va durer 4 semaines. Il y a aussi une possibilité de cours pour se familiariser avec Excel. Les jeudis 13, 20 et 27 avril en après-midi, on peut s'inscrire au numéro que je vous donne tout de suite, le 450-467-1872. 450-467-1872. Le yoga sur chaise, est-ce que cela vous inspire? Eh bien, l'espace Samashtiti, ça s'écrit S-A-M-A-S-T-H-I-T-I, propose un nouveau cours les lundis de 15h à 16h à partir du 13 mars. C'est du yoga adapté aux personnes de 65 ans et plus. Pour 12 semaines, ça va coûter $195, taxes incluses. Cet espace Samashtiti est situé au 310 boulevard Laurier à Belœil. 310 boulevard Laurier à Belœil. Un numéro ou alors, carrément, plus facile encore, un courriel, info@espacesamashtiti.com. C'était les Paractualités, animées pour vous par Clotilde Sey. Merci à mon équipe de m'aider à préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouve lundi à 11h30.